Ce gouvernement à deux têtes, si je puis dire, bat de l'aile maintenant, pour employer cette métaphore animalière, bat de l'aile, et on se demande si on n'est pas à nouveau dans un scénario qui nous conduit tout droit à un quatrième scrutin, peut-être au mois de novembre, nous dit-on. Des accords sur le budget, dans la coalition, mais évidemment, il y a sans doute des enjeux plus importants. Et puis Netanyahou l'a reconnu aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il l'a reconnu, le plan Trump est en quelque sorte caduc. Le président américain a d'autres soucis que le Proche-Orient en ce moment, avec une perspective difficile pour lui, qui est cette présidentielle américaine de novembre prochain. Donc, nous voilà dans une situation à nouveau plus critique, on va dire, qu'elle ne pouvait le paraître il y a encore quelques mois, et d'où la question de savoir où va cette société israélienne qui ne semble pas en mesure, en tout cas, même de constituer une équipe solide et cohérente qui permettrait d'affronter les difficultés du moment. Question que nous posons donc à notre invité aujourd'hui, le Rav Uri Cherki, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu, de se faire ainsi commentateur, des commentateurs évidemment éclairés d'une autre dimension que la dimension simplement politique. Bonjour Rav Cherki.
Bonjour.
Alors cette conférence est diffusée via Zoom. Elle va être mise en ligne naturellement sur notre site Manitou l'hébreu, avec le partenariat naturel de la Midrashet Yehuda, Jérusalem, avec aussi le partenariat de la Grande Synagogue de la Victoire. Je signale d'ailleurs à ce sujet qu'il y aura, nous l'espérons en septembre, une nouvelle conférence qui cette fois se tiendra en présentiel, comme on dit maintenant, puisque ce mot est devenu maintenant courant, même s'il n'est pas très joli, présentiel, à la Grande Synagogue de la Victoire, nous l'espérons. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous, si vous voulez noter ce prochain rendez-vous, dimanche 13 septembre à 18h, donc à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris, pour une conférence. Nous serons à ce moment-là, nous serons une semaine avant Rosh Hashanah, et c'est Olivier Cohen qui nous parlera du sacrifice d'Isaac, sacrifice avec tous les guillemets qui conviennent naturellement, et il fera notamment le lien, comme le faisait Manitou, avec l'interprétation qu'en a fait la chrétienté avec le récit de la passion. Voilà, c'est donc le thème de cette conférence, à noter dimanche 13 septembre prochain à 18h à la Synagogue de la Victoire, si évidemment les conditions le permettent. Alors Rav Cherki, je vais vous donner tout de suite la parole. J'ai déjà été sans doute trop long pour votre exposé sur cette situation actuelle. Ensuite, nous ouvrirons le dialogue. Où va la société israélienne? J'avais envie de préciser un peu la question, peut-être, et de vous demander si les difficultés que rencontre aujourd'hui le peuple d'Israël pour former, disons, pour désigner des dirigeants, pour qu'ils les conduisent, le peuple, est-ce que finalement ces difficultés ne sont pas une constante, on peut le dire, dans l'histoire du peuple hébreu tel que la Bible nous le raconte?
Eh bien, bonsoir Antoine, merci de cette lumineuse introduction. Et je voudrais reprendre justement, puisque vous m'avez lancé la perche, est-ce qu'il n'y aurait pas une constante ici de la crise? Vous savez, il y avait un auteur juif en Allemagne du nom de Rabinovitch, il y a à peu près un siècle, qui a écrit un long article qui s'appelle « Un peuple qui ne cesse de disparaître ». Et c'est intéressant, il analyse chaque génération de l'histoire d'Israël, et il fait remarquer que à chaque génération, les personnes conscientes estimaient que c'était la dernière génération du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de désespoir permanent qui nous accompagne, c'est peut-être une des manières justement d'être éternel. Et donc, disait ce Rabinovitch, si c'est un peuple qui ne cesse de mourir, alors qu'il continue à ne pas cesser de mourir, comme ça il vivra éternellement. Effectivement, il y a des constantes disons des tensions intérieures de l'identité hébraïque, comme vous le savez bien, surtout dans la société israélienne. La société israélienne est basée sur un compromis entre différentes manières de se définir, et on peut dire que depuis la fondation de l'État d'Israël, la société israélienne est en recherche d'identité. Alors évidemment, il y a différentes vicissitudes, ça prend différentes formes, mais enfin, on peut dire de manière générale que c'est une société qui est en mal de définition d'elle-même. Et souvent, on peut se dire que pour que ça tienne, il faut éviter de répondre à des questions trop profondes. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de État juif, État des juifs, État de tous les citoyens, etc., etc., en fait, la question n'est jamais tranché, parce que si on tranchait le conflit d'identité, le conflit dans l'identité, dans la définition d'identité israélienne, dans un sens ou dans l'autre, on aurait rejeté une autre partie de la population. Et donc, tout le monde est d'accord pour ne pas être d'accord sans trop en parler. C'est-à-dire qu'on ne va jamais rentrer dans le détail jusqu'au bout dans quelle mesure l'identité juive serait-elle exclusivement religieuse, exclusivement nationale, exclusivement cosmopolite. On ne veut pas en parler. Il y a une sorte de, on va dire, de contrat social à la Rousseau, une sorte de contrat social dans lequel tout le monde est d'accord de ne pas trop parler. Et quand quelqu'un élève trop la voix dans un sens ou dans l'autre, c'est là que se créent les crises de l'identité israélienne. Et donc, on peut dire que c'est un équilibre assez, disons, je ne dirais pas instable. Au contraire, c'est un équilibre qui, justement, par les dangers qu'il présente, oblige à être stable. Et bon, vous savez qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de fissure dans la société israélienne entre deux projets que, disons, emblématiquement, je voudrais rapporter au Premier ministre Netanyahou et au président Rivlin. Le Premier ministre Netanyahou, Benjamin Netanyahou, a insisté et a réussi à faire passer une loi fondamentale à la Knesset. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle des lois fondamentales qui remplacent qui remplacent la Constitution. Il a réussi à faire passer une loi fondamentale qui est que l'État d'Israël est un État juif. On pourrait dire que c'est une banalité, mais il fallait le fixer dans la loi, ce qui donne une primauté à l'identité juive par rapport aux autres identités qui composent l'État israélien, en particulier les Druzes et aussi également les Arabes. Et en réaction à cela, vous avez le projet du président Rivlin dans son discours des tribus, dans lequel il explique que la société israélienne est formée de quatre tribus qui doivent vivre ensemble. Les quatre tribus sont les laïcs, les religieux, les charédim et les arabes. Et on peut dire que la tension qu'il y a entre ces deux projets explique beaucoup de choses qui se passent dans notre société. On peut dire qu'effectivement, les résultats des élections ont donné une sorte de poids plus important à l'option juive de l'identité israélienne, mais il est quand même surprenant de voir qu'il n'y a pas eu de totale victoire. Il y a quand même, justement, le gouvernement paritétique qui actuellement est en train de battre de l'aile, eh bien, il exprime exactement cette ambiguïté qu'il y a dans l'identité israélienne au sein de chaque Israélien. De manière générale, je pourrais dire que ma tendance personnelle est à l'optimisme. Bon, on peut dire que c'est une sorte de maladie permanente que j'ai, ce qu'on appelle l'optimisme chronique. En effet, à chaque fois qu'il y a une crise dans la société, on peut voir en cela une occasion de grandir. Effectivement, on grandit à travers les mutations. Et alors bon, vous avez ici plusieurs remarques déjà sur chat. Entre les laïcs et les religieux, il y a les traditionalistes. Il y a donc vous avez des ponts, c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à créer une identité cosmopolite qui unit plus qu'il ne divise? Alors effectivement, toutes ces questions, entre autres les questions sur 18 heures de France et bonjour, j'ai des problèmes de son, qui sont des questions très importantes, tout cela nous amène à des considérations, on pourrait dire, d'ordre plutôt, j'irais même dire, métaphysique. Et là, je voudrais rentrer dans un enseignement du Rav Kook, étant donné que je suis là pour donner un cours et pas seulement pour réagir à la conjoncture actuelle. Je voudrais rappeler un enseignement très important du Rav Kook dans son livre Oroth, dans son analyse de toute société en général et de la société d'Israël en particulier. Dans toute société, dit le Rav Kook, il y a trois pôles d'intérêt. Il y a le pôle qu'on pourrait dire la sainteté, qui est en général défendue par ce qu'on appelle l'option religieuse. Il y a également l'identité nationale et vous avez l'identité, pourrait-on dire, cosmopolite. Si on veut être extrêmement schématique et sans nuance, on pourrait appeler ça les religieux, la droite et la gauche. Je sais que dans la réalité, il y a beaucoup plus de nuances, mais ça nous permet d'avancer dans l'analyse. Et le problème de savoir, est-ce qu'il y a seulement rivalité ou est-ce qu'il y aurait complémentarité? Or, pour le Rav Kook, il y a ce qu'on appelle, au-dessus de ces trois pôles, il y a ce qu'on appelle le Kodesh Ha'Elyon, c'est-à-dire la sainteté suprême, qui s'exprime à travers ces trois préoccupations. C'est-à-dire, une société normale, une société saine, est une société dans laquelle il y a un équilibre qui s'établit entre trois tendances de l'être humain. Tout être humain a besoin de sainteté, pourrait-on dire, il y a ce qu'on appelle un esprit religieux, qui se trouve toujours disons, dans un certain pourcentage en chacun de nous. Il y a une appartenance à une identité nationale, il y a une appartenance au genre humain tout entier. Et c'est ça qui va créer trois partis politiques ou trois partis sociologiques. Mais en fait, ce qu'on appelle le Kodesh Aelyon, la sainteté suprême, ne peut s'exprimer que lorsqu'il y a l'harmonie entre ces trois tendances. Et là, à nouveau, surprise du Rav Kook, cette harmonie se crée à travers quelque chose qu'on a l'habitude de dénigrer, la haine gratuite, sinatrinam. La sinatrinam, la haine gratuite, permet à chacun de ne pas comprendre l'autre. Or, il est important de ne pas se comprendre. Parce que si je veux m'investir dans un idéal, il est nécessaire, sur le plan de la stratégie, qu'à un moment, je ne comprenne pas ce que veut l'autre. Non pas que j'ai raison de ne pas le comprendre, mais ça me permet finalement de me consacrer de manière plus totale à ce pourquoi je suis sensible. Et l'autre ne me comprendra pas. Ben c'est très bien qu'il ne me comprenne pas. Ça lui permettra à lui de s'investir dans ce en quoi il est sensible, etc. Donc on pourrait dire que ce qui se passe dans la société israélienne, c'est une marche vers la synthèse. Viendra un temps où chacun reconnaîtra l'apport que lui donne l'autre et ce que lui a apporté à l'autre. Donc quand on parle en fait de sionisme laïque, sionisme religieux, de religieux sans sionisme, etc., il y a donc cet équilibre qui se crée et on peut dire que finalement, il y a une mosaïque, je reprends ici le mot de Manitou, une mosaïque de confession. Cette mosaïque de confession n'est pas simplement des confessions religieuses. Il y a au sein de l'identité juive différentes confessions, différentes manières de concevoir ce que c'est que l'identité juive. Il y a une ambiguïté dès le départ. Vous savez que dans la carte d'identité israélienne, aujourd'hui ce n'est plus inscrit, mais c'est quand même inscrit dans le ministère de l'Intérieur, on inscrit la nationalité du porteur de la carte. Or, on écrit pour les juifs, Léom Yehudi, dat Yehudi, c'est-à-dire nation juive, religion juive. Et on esquive justement le problème que cela peut créer dans l'identité de chacun. Il y a, je reprends donc ici ma première idée, c'est que la société israélienne est en évolution justement de synthèse entre ces trois tendances, ce qui va permettre justement un retour de notre identité originelle. Vous savez que Manitou parlait souvent du retour à l'identité hébraïque. Cette identité hébraïque n'est pas réductible à l'identité religieuse ou l'identité nationale ou l'identité cosmopolite. En fait, il y a ces trois éléments qui jouent ensemble et qui vont finalement créer une société à rayonnement universel. Et donc, quand il y a des crises, on peut dire que ce sont en fait ce qu'on appelle dans la Kabbale des berourines, des tris, des choses qui sont en train de se vérifier. Et là, à nouveau, il y a également, chaque partie de la société israélienne a adopté une des trois qualités qui sont nécessaires, selon le Talmud, pour être prophète. En effet, vous savez que pour être prophète, nous dit le Talmud, il faut être un homme complet. Or, l'homme complet, pour le Talmud, est formé de trois éléments. Il faut être sage, vaillant et riche. Or, le peuple juif a réussi à prouver pendant tout le temps de son histoire et jusqu'à aujourd'hui qu'il était capable d'être sage, en particulier à travers les sages de la Torah, mais également les prix Nobel sont là pour prouver la sagesse du peuple juif. Et le deuxième élément, c'est la vaillance. Or, l'État d'Israël, avec ses guerres, avec Tsahal, avec ses confrontations permanentes avec le terrorisme, a prouvé qu'il était capable d'être fort, d'être vaillant. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la troisième phase, celle de l'État riche. La Startup Nation amène l'État d'Israël à, à être un des pays les plus réussis sur le plan économique dans le monde, avec toutes les difficultés que ça présente, mais le fait est là. Or, on peut dire, si déjà nous parlons d'une synthèse, eh bien, il n'est pas du tout impossible de voir justement que ces trois éléments correspondent aux trois parties dont nous avons parlé. Et ce qui, disons, ça nous invite au retour de ce qu'on appelle la civilisation prophétique. Or, cette civilisation prophétique n'est pas encore restaurée, nous n'avons pas de prophète, mais c'est peut-être parce que justement, il manque justement la synthèse. C'est-à-dire, ceux qui se préoccupent de sagesse ne sont pas ceux qui se préoccupent de vaillance et ne sont pas ceux qui se préoccupent de richesse. Mais le jour où le type israélien type sera justement celui qui est capable de faire l'unité entre ces trois tendances de l'être, eh bien c'est là que nous pouvons, disons, espérer la restauration de cette identité prophétique que nous avons connue dans l'Antiquité et qui est devenue nécessaire pour l'humanité. Et là, justement, c'est là qu'il est important de parler un peu du message de la société israélienne pour l'humanité. Et là, je vais être très rapide. Vous savez que depuis la guerre des six jours, on pourrait dire, mais peut-être déjà un peu avant, depuis la guerre des six jours en tout cas, les nations, au niveau du subconscient collectif des nations, se demandent qu'est-ce que ce peuple biblique vient faire en pleine modernité. Et ils se disent, souvent, les goïms, mais si vous avez fait tellement de désordre, vous avez bousculé la théologie chrétienne, vous avez amené la Bible sur terre, comme dirait Olivier Cohen, eh bien, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. Or, souvent, les Israéliens ne savent pas quoi dire. Ils disent, nous n'avons rien à vous dire, nous sommes des Occidentaux comme vous. Et nous ne nous rendons pas toujours compte de la déception amoureuse que cela crée dans le subconscient collectif des nations. Ils attendent de nous un message, et ce message n'est pas transmis. Or, ce message est celui, justement, du canal de la révélation. Le peuple d'Israël est connu dans la civilisation universelle comme étant celui qui transmet la parole de Dieu. Or, ce n'est possible qu'effectivement que si une société prophétique se crée. Or, se greffe maintenant sur ce phénomène de la société israélienne qui est en évolution, plusieurs éléments importants, et je voudrais ici en donner au moins deux, peut-être trois, et être encore plus rapide. Antoine ne doit pas s'inquiéter, je sais tenir les temps. Tout d'abord, le fait de la confrontation avec le Covid-19, le virus de la corona, qui a amené dans le monde entier, également en Israël, un retour assez surprenant à l'individualité. Or, quand on est coupé du monde, on ne peut pas sortir de chez soi, ou même quand on sort, on a besoin de se masquer, et il y a des difficultés dans la communication, cela entraîne des détresses. La détresse, c'est souvent la solitude, ou en tout cas, l'absence d'activité. Vous savez, les activités culturelles ont cessé, les voyages permanents à l'étranger ont cessé. Et pour beaucoup de personnes, cela crée une crise identitaire extrêmement forte. Mais si on fait abstraction justement de la difficulté, il y a également un élément positif, c'est le retour à l'intériorité. Et on peut dire que l'homme moderne a oublié qu'il avait une vie intérieure. Or, justement, quand on est seul avec soi, même quand on est devant un Zoom, eh bien, on est obligé finalement de s'inspirer de sa vie intérieure. Or, cette vie intérieure peut justement révolutionner finalement l'être humain et le rendre plus sensible à la spiritualité, également à l'écoute intérieure et même à écouter la voix de son âme. Le deuxième élément qui est très important, c'est la Aliya. Il y a de manière surprenante un regain d'émigration vers Israël, d'Aliya. Vous savez qu'on a souvent l'habitude de dire il ne faut pas faire son Aliya parce qu'on a peur de l'antisémitisme, etc. À mon avis, avoir peur de l'antisémitisme est une chose très positive. Quelle que soit la raison qui vous pousse à l'Aliya, c'est toujours une bonne raison. Mais le fait est qu'il y a un sentiment qui s'est créé dans le peuple juif que la maison, eh bien, c'est en Israël. Et ça, c'est une chose assez surprenante qui se crée et qui amène un surplus de confiance en Israël. Il y a également cet élément qui a été mentionné très rapidement par Antoine tout à l'heure, par Antoine Mercier, qui est l'indifférence par rapport au plan Trump. Vous savez, on a beaucoup parlé d'annexion, pas annexion, etc. Et ça passe comme une lettre à la poste. Il y aurait eu annexion, ça serait passé. Il n'y a pas d'annexion, ça passe aussi. C'est comme si le problème de la souveraineté était devenu beaucoup moins important qu'avant. Il y a une réalité sur le terrain, il y a une présence arabe au sein de la terre d'Israël, le fait est là, et tout le monde gère cette vie ensemble indépendamment des options politiques ou des idéologies. Et ça, je pense, c'est également très important. On pourrait dire même que l'annexion aurait été nocive pour ceux qui veulent la souveraineté sur toute la terre d'Israël. Parce que si on annexe une partie, ça veut dire que l'autre partie n'est pas annexée. Or, la situation actuelle sur le terrain, eh bien, elle est finalement le plus stable possible. Je voudrais finir avec une petite remarque d'un journaliste israélien du nom de Yotam Zimri, à qui on a demandé comment est-ce que vous allez régler le problème palestinien. Il a répondu, c'est très simple. Tout le monde sait que les Arabes ont très peur des licornes. Donc, il suffit de faire deux troupeaux de licornes, un à l'est et un à l'ouest, et les Arabes prendront la fuite. Alors, on lui dit, mais ce n'est pas réaliste. Il dit, d'accord, mais est-ce que votre solution à vous aussi est réaliste? C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir de solution ne doit pas entraîner forcément des mauvaises solutions. Voilà, c'était l'introduction à vos questions, à vos interventions. Et merci Antoine et merci à tout le monde. Nous allons donc passer donc à la deuxième phase.
Voilà, la deuxième partie qui est la partie des questions. Alors, je voudrais quand même vous revenez à ce point initial, à savoir que finalement, le fait de ne pas définir une situation est quelque chose de positif puisqu'il y a une évolution qui est en cours. Et la définition, si vous avez bien compris, risquerait de figer, la résolution supposée d'un problème risquerait de figer cette évolution, et que donc il faut laisser les choses se déployer. J'avais une question un peu peut-être technique, on va dire, par rapport à ce que vous nous avez dit sur le fond, très intéressant, sur les trois composantes de la société israélienne, et sur le fait que quand l'harmonie sera trouvée, eh bien le canal prophétique éventuellement pourra intervenir et se faire sentir chez les personnes. Quel est le rapport dans ce schéma-là entre l'individu et le collectif, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit pour chacun des Hébreux de retrouver un petit peu de toutes ces dimensions afin d'être de pouvoir recevoir cette parole prophétique, ou bien est-ce qu'il s'agit, vous avez dit à un moment donné, une société prophétique, ou bien est-ce que c'est au niveau de la société que cela doit se produire et que donc il n'est pas forcément nécessaire pour chacun d'avoir une petite parcelle de ces trois composantes?
C'est intéressant, je vois que vous avez tout à fait été sensible à la précision de ma formulation. Effectivement, je n'ai pas parlé du retour des prophètes, mais de la civilisation prophétique. Je voudrais reprendre ici un enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague fait remarquer que dans la chaîne de la tradition telle qu'elle est décrite dans le traité de Maseret Avot, on dit, voilà, Moïse a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmise à Josué, qu'il a transmise aux anciens, qu'ils les ont transmis aux prophètes, et les prophètes aux hommes de la grande assemblée. Et dans toute cette liste, à part Josué, il n'est pas question du nom des personnes qui ont transmis la tradition. On nous dit les prophètes, on nous dit les hommes de la grande assemblée. Ce n'est que plus tard, à l'époque du deuxième temple, à l'époque post-prophétique, que l'on commence à donner les noms. Et pour le Maharal de Prague, c'est très important parce qu'effectivement, ce n'est pas le prophète qui est transmetteur de la tradition, c'est la prophétie en général. On peut dire que une société prophétique est une société dans laquelle la présence du Créateur est ressentie. Parfois, elle se fait entendre, et quand elle se fait entendre, elle est entendue par tout le monde, y compris par ceux qui ne sont pas concernés par cette parole. Mais ça ne veut pas dire que chacun est prophète. On peut dire, par exemple, le phénomène qui existait au temps des prophètes, la spontanéité de la prière. Alors qu'il n'y avait pas encore de rituel, il n'y avait pas de texte, chacun spontanément savait quand est-ce qu'il devait prier, parce que il y avait comme une sorte de diffusion sur la chaîne générale d'une présence. Eh bien, on peut dire que c'est un peu ça qui se passe. La société israélienne est en train de se recréer le réceptacle de la présence. Et si cela amène, et ça amènera certainement également au retour de deux prophètes, ça veut pas dire que toute la société seront des prophètes. Vous savez, il y a un texte dans le livre de Bamidbar quand Josué vient voir Moshe et lui dit, mais pourquoi est-ce que ces deux-là prophétisent dans le camp, Eldad et Medad? Alors, Moshe répond, mais ça serait bien que tout Israël soit prophète. Mi-yiten, si cela était possible, que tout Israël soit prophète. Et on raconte qu'un grand maître du chassidisme, à qui on avait dit, peut-être qu'un jour tous les enfants d'Israël seront prophètes, il a répondu, mais là il faut comprendre un peu l'hébreu, Kol Amashem Nevi'im ou Mi-yiten, si tout le peuple d'Israël sont des prophètes, alors qui donnera? Ça veut dire une société qui est faite entièrement de prophètes, une société un peu déstabilisée aussi.
C'est une société, en tout cas, qui, si je vous comprends bien, aura la possibilité de parler pour l'universel.
Et ça, exactement. En fait, on peut dire que la raison pour laquelle nous avons besoin de prophètes, ce n'est pas simplement par aspiration mystique, c'est effectivement parce que nous avons quelque chose à transmettre. Quand on dit « Mitzion tetzé Torah », c'est de Sion que sort une Torah. Ou Dvar Hashem est la parole de Dieu, Mirushalayim de Jérusalem, ça veut dire qu'en fait elle sort pour les nations. Et on peut dire que les goyim attendent de nous d'avoir quelque chose à leur dire. Vous rappelez ce que disait Blaise Pascal, c'est qu'il se sent concerné par l'existence du peuple juif parce que si jamais Dieu a parlé aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition.
Vous dites que les goyim attendent quelque chose d'Israël, mais enfin, quand on voit les positionnements, les comportements généraux, l'hostilité souvent à Israël, on se demande où est cette attente dont vous parlez précisément, et est-ce que les Israéliens doivent faire quelque chose pour la susciter?
Ben, vous savez que quand on a de l'aversion pour quelqu'un, c'est qu'on est capable également de l'aimer. C'est-à-dire, la haine est plus forte que l'indifférence. L'indifférence, c'est le pire des maux. Or, on ne peut pas être indifférent à Israël. On est soit pour, en général c'est une minorité, soit extrêmement hostile, et c'est souvent la majorité. Mais l'hostilité, si on analyse ça sur le plan psychanalytique, n'est pas motivée par des raisons objectives. C'est-à-dire, ce n'est pas le conflit israélo-palestinien qui serait la véritable raison de cette hostilité, et, ni même le scandale théologique que représente Israël pour la chrétienté, ou même pour l'islam. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est ce qu'on appelle la déception amoureuse. C'est-à-dire, si tu ne m'as pas donné ce que j'attends de toi, alors ça va m'amener finalement à te haïr. Et on pourrait analyser effectivement le désarroi de la civilisation universelle comme étant une réaction justement à ce silence d'Israël. Et donc, je pense que justement l'hostilité peut-être est un symptôme, parce que c'est tellement irrationnel, tellement hors de toute proportion, et c'est tellement injuste et tellement calomnieux qu'on ne peut pas ne pas penser qu'il y ait quelque chose se cache dans le subconscient collectif derrière tout cela.
Alors, justement, à propos de la... Je peux peut-être commencer à ouvrir un peu parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. À propos de cette haine gratuite, vous avez dit à un moment donné quelque chose qui a surpris en tout cas Sarah Safar qui nous envoie cette question. Comment la haine gratuite peut-elle être constructive pour notre nation? J'ai l'impression que c'était quelque chose qui finalement était positif alors que nous sortons du 9 av, si je puis dire, où on nous a expliqué que c'était ça le problème, la haine gratuite.
Justement, je dirais même un peu paradoxalement que le Rav Kook aimait tellement tout le monde qu'il aimait même la haine gratuite. C'est-à-dire, il faut être capable de trouver un sens à tout phénomène. Alors évidemment, tout le monde, je pense, c'est une donnée évidente, tout le monde sera d'accord pour dire que la haine en soi est un mal. Mais ce qu'on appelle la haine, c'est également ce qui sépare. Or, la séparation est parfois nécessaire. C'est-à-dire, si vous prenez une image, par exemple, vous plantez un jardin potager, et que vous voulez que vos légumes réussissent, il faudra faire un écart entre les carottes et les concombres. Si vous les mettez trop proches l'un de l'autre, ils vont s'empêcher l'un de l'autre de grandir. Et donc, effectivement, c'était un peu provocateur ce que j'ai dit, c'était plutôt une boutade, mais cette boutade est importante. Il faut savoir respecter l'incompréhension qu'a l'autre pour mon message. C'est-à-dire, vous savez, parfois, je suis persuadé que j'ai de grandes choses à dire à l'autre, et je suis très surpris qu'il me refuse. Eh bien, il me refuse parce que lui aussi représente quelque chose. Et tant que je n'aurai pas compris ce que lui représente, il est peut-être même positif d'une certaine manière qu'il refuse également ce que moi je représente.
Voilà. Est-ce que dans la discussion talmudique, pour juste faire une petite parenthèse à ce sujet, on n'a pas l'exemple de possibilité d'avoir une vraie discussion dans un cadre commun, vraiment une opposition entre deux rabbins qui discutent et qui ne pose pas de problème, ce n'est pas fait sur le mode de la haine, c'est fait sur le mode de la recherche.
Absolument. Il y a ce qu'on appelle la convivialité entre les rabbins. Vous savez, le Talmud de Babylone dit que les rabbins de Babylone sont violents entre eux et que les rabbins d'Eretz Israël sont aimables l'un avec l'autre. Alors, évidemment, ça demande une conscience, disons, morale plus élevée, la capacité de comprendre que nous participons tous à un projet. Et ça, c'est possible à partir du moment où on développe une conscience monothéiste authentique. Le monothéisme véritable n'est pas l'exclusion de l'autre, mais il est l'inclusion justement de l'autre. C'est une question, si vous voulez, d'étude. Du côté de Nicole Samuel, si on pouvait fermer le micro, ça serait très utile. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, dans la société israélienne, il y a des recherches de rencontres. Je voudrais vous donner une expérience personnelle. Le soir de Tisha B'Av, après la lecture des Lamentations et après les keynotes, j'étais invité à un meeting à Latroun, à mi-chemin entre Jérusalem et Tel Aviv, pour l'inauguration d'un restaurant. Vous allez me dire, inauguration d'un restaurant à Tisha B'Av, extrêmement surprenant. Eh bien, c'est un restaurant qui se trouve à mi-chemin, donc entre Tel Aviv et Jérusalem, et qui est ouvert le Shabbat et qui vend du porc. Or, un de mes amis qui est influent en Israël, Erez Eshel, a réussi à convaincre le propriétaire de cachériser le restaurant et que le Shabbat, le service soit assuré par des non-juifs, mais que tout soit préparé à l'avance, et de transformer ce lieu en un lieu de rencontre de la société israélienne et de chercher des nouvelles voies. Et l'inauguration s'est faite donc le soir de Tisha B'Av, le restaurant était ouvert, mais il n'y avait rien à manger, et sont venues plusieurs centaines de personnes de tous les horizons de la société israélienne, y compris des députés de la Knesset, des généraux de l'armée israélienne, des journalistes, des jeunes, des vieux, des religieux et des non-religieux, qui tous ensemble se disent, c'est le soir de Tisha B'Av, qu'est-ce que nous allons faire pour nous rencontrer à nouveau? Donc, vous voyez, ce genre de phénomène se multiplie dans la société israélienne. Il y a des lieux de rencontre.
Vous avez le sentiment que de manière latente, de manière différenciée, il y a plus de proximité que l'apparence ne le laisserait.
Oui, absolument. On pourrait dire même sur le plan, disons, même politique, les positions des partis qui s'affrontent aujourd'hui au sein de la coalition, c'est-à-dire un affrontement au sein de la coalition, c'est absolument extraordinaire. Et finalement, les positions ne sont pas si éloignées l'un de l'autre qu'on pourrait le penser. Le lieu s'appelle, je réponds ici à une question, il s'appelle Emtsa Haderech, au milieu du chemin. Y a-t-il un enregistrement de cet événement? Je suppose que oui, mais bon, il faut que je le retrouve.
Alors,
Oui, allez-y, allez-y.
vous donnerez l'adresse, effectivement, ça peut être un lieu intéressant et qui peut être
Cherchez sur
symbolique.
Emtsa Haderech, vous trouverez ça. Oui.
Entre Tel Aviv et Jérusalem, c'est aussi symbolique
Oui,
comme
absolument,
lieu.
absolument. Ça représente les deux pôles de cette société.
Alors, il y avait parmi les questions, Rav Cherki, une question sur les Arabes que je ne retrouve pas exactement, mais fait qui était en quelque sorte. Je ne suis pas d'accord, oui, voilà, c'est M. Torjman, pour qu'il faille laisser. Ça, c'était les frontières d'Israël, mais
Ne soit pas
sur.
fixé, oui.
On avait parlé des Arabes israéliens à un moment donné comme une composante, finalement, de cet ensemble. Alors, je pose la question directement, est-ce que les Arabes israéliens ont vocation à être des Hébreux? Et à participer à ce collectif dont vous parlez.
Je vous dire, c'est tout d'abord quand on dit, je ne suis pas d'accord de laisser la situation telle qu'elle est. Mais la situation, elle ne nous demande pas si on est d'accord avec elle ou pas. La situation est ce qu'elle est. Et il est intéressant de voir justement comment est-ce que les Arabes réagissent à cela, aussi bien les Arabes israéliens que les Arabes non israéliens. Il y a par exemple un mouvement qui vient de se créer au sein de la société arabe en Israël qui s'appelle Atidna. C'est un jeu de mots sur l'hébreu et l'arabe qui veut dire notre futur. Et ce sont des Arabes israéliens qui demandent à ce que l'État d'Israël s'affirme en tant qu'État juif. Parce que cela est bénéfique justement à la société arabe également. Vous allez me dire c'est un peu fou, mais le fait est là. C'est-à-dire, indépendamment de l'hostilité affichée par les dirigeants politiques de la société arabe, il y a aujourd'hui une terreur au sein des Arabes à l'idée qu'ils pourraient devenir palestiniens. C'est-à-dire, tout en réclamant le droit de protester en permanence contre l'occupation israélienne, la colonisation, etc., finalement, ça arrange tout le monde. Et la dernière des choses que seraient intéressés, justement, les Arabes israéliens à faire, c'est de devenir des Palestiniens. Ils seraient terrorisés à cette idée-là. D'ailleurs, remarquez même une chose, je parle ici pour des Arabes qui ne sont pas israéliens, je parle ici par exemple de la bande de Gaza. Vous savez que justement aujourd'hui, Israël a fermé le passage qui fait entrer les camions dans la bande de Gaza parce que les Gazaouis lancent des ballons avec explosifs sur les territoires israéliens et créent des incendies. Et pourtant, le passage reste ouvert pour faire passer l'essence et le nécessaire humanitaire. C'est-à-dire, nous voulons avoir le droit de vous lancer des bombes, mais quand même continuer à nous alimenter. Et tout le monde est d'accord là-dessus, de manière plus ou moins tacite. Alors, c'est vrai que cette situation est endémique, elle est un peu maladive. Mais il semblerait, même, je dirais même au niveau de la providence, que cette situation a un sens. Nous sommes dans un monde dans lequel se crée un modèle de relation entre la majorité et les minorités différent du modèle proposé par la société occidentale. Effectivement, dans la société occidentale, alors on parle d'intégration, mais cette intégration est également un peu impérialiste. C'est-à-dire, ce qui crée aujourd'hui le problème en France par rapport à l'intégration des musulmans, justement qu'ils ne sont pas prêts à s'assimiler culturellement à la France, eh bien, cela est un constat d'échec pour la tentative de la République française de créer un type unifié. La société actuelle en Occident, mais également en Israël, n'est pas une société uniforme. Il faut savoir en tirer les conséquences.
Autre question, il était sur la question de ce qu'il ne faut pas régler, s'empresser de régler tout de suite. Par exemple, la question des frontières. Alors, M. Torjman nous dit, je ne suis pas d'accord qu'il faille laisser ad vitam aeternam les frontières d'Israël non fixées. Est-ce qu'aussi sur cette question des frontières, il y a un impératif, selon vous, de ne pas trancher ou de ne pas déterminer quelque chose de définitif?
Disons qu'il y a un constat de fait, c'est-à-dire, indépendamment des idéologies ou de ce que dit la halakha ou de ce qu'il faudrait faire, il y a également ce que les Israéliens sont prêts à faire. Or, les Israéliens ne sont pas prêts, ils ne veulent pas régler le problème. Et je pense que l'échec du plan Trump est, disons, de manière... insinue, voulu également par Netanyahou. Parce que si Netanyahou avait voulu véritablement annexer une partie du terrain, il l'aurait fait, finalement. Et comme disait Ben Gurion, ce qui est important, ce n'est pas ce que diront les goyim, mais ce que feront les juifs. Or, les juifs, le fait est là, que le représentant politique de la majorité israélienne n'est pas intéressé, finalement, à créer une situation fixe. Et effectivement, parce que si vous annexez, par exemple, la vallée du Jourdain, que vous annexez les implantations israéliennes, alors tacitement, vous impliquez que le reste n'est pas annexable. Et là, vous créez une situation qui devient nocive, même par rapport au projet, justement, d'annexion de toute la Judée et de la Samarie. Mon option politique est effectivement celle du grand Israël. Je pense que c'est un secret pour personne, mais il faut également comprendre que la réalité sur le terrain est là pour nous apprendre quelque chose.
Voilà. Bon, alors il continue en disant.
Non, je voudrais peut-être rajouter que il y a une réalité qui fait que dans l'histoire, quand on a essayé de régler immédiatement un problème, on n'a pas toujours réussi.
C'est un conseil que vous donnez pour l'existence individuelle aussi, finalement?
Disons que si on ne laisse pas parler au sein de soi-même les différentes voies qui nous habitent, parce qu'on se dit qu'il faut absolument donner la préséance absolue à une des tendances de la vie intérieure, je pense que finalement ça crée un appauvrissement de l'identité intérieure. Ne se vouloir que religieux, que national, que universel, finalement c'est décider de de se débarrasser d'une partie de soi-même. Or, je pense que c'est dommage. Vous savez que la tradition d'Israël considère que le Yetzer Hara ne doit pas être aboli. Il doit être intégré. Et bon, on peut dire qu'effectivement, ça revient également au niveau de la vie individuelle.
Alors, on va ouvrir aussi des questions à si des personnes veulent intervenir par l'intermédiaire de Zoom, donc de leur caméra et de leur micro. On va donc laisser ouvert. Le plus simple, ce serait quand même que la personne qui veut parler ouvre son micro et s'exprime. On verra ensuite s'il y a plusieurs personnes en même temps, on essaiera de canaliser. J'avais quand même juste une dernière question sur cette question du juif à hébreu, pour reprendre le thème fondamental de Manitou sur ce point-là. Est-ce que la dimension universelle que le juif apportait, cosmopolite, est-ce qu'elle s'inscrit dans cette problématique universelle, ou est-ce que le cosmopolitisme doit rester aussi présent dans ce nouvel alliage dont vous nous parlez?
Je veux dire, le cosmopolitisme est un refus de l'identité nationale, c'est vrai, mais les cosmopolites israéliens font partie de l'identité nationale, c'est ça leur grand drame. Or justement, cette exigence cosmopolite peut être transformée, elle peut être transmuée en universelle. Et donc, de ce point de vue-là, elle est bénéfique. Quand on parle d'identité hébraïque, récemment, Chaim Rotenberg, dans l'inauguration de la rue Manitou à Jérusalem, a raconté qu'on avait demandé à Manitou « Qu'est-ce que c'est que cette identité hébraïque dont vous parlez tout le temps ?» Et très surprenant, Manitou a répondu « Je ne sais pas ». Ça veut dire que c'est une identité qui est en train de se former. Alors évidemment, elle comportera en elle ce qu'il y a de bon en chacun de nous. Mais la définir maintenant, c'est déjà l'appauvrir.
Et de toute façon, elle aura cette triple détermination dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'elle sera sans doute à la fois nationale, universelle et religieuse.
Oui, sans aucun doute. Mais je pense que quand nous parlons d'une synthèse, on ne peut pas parler d'un mélange. Ce n'est pas un mélange, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle voix qui se fait entendre.
Voilà, nouvelle voix. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer?
Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît.
Allez-y, madame.
Puisque tout le monde s'accorde à dire que les frontières d'armistice de 67 sont des frontières, pourquoi ne pas déplacer ces frontières d'armistice? Pourquoi pas les déplacer? Puisque tout le monde s'accorde à les appeler frontières et qu'elles ne sont que des frontières d'armistice, donc elles peuvent être déplacées.
Vous voulez les déplacer où, madame?
Si on prend une partie de l'île de la vallée du Jourdain, donc finalement, après tout, on l'occupait en 67.
D'accord, mais donc, comme l'a dit le Rav Cherki tout à l'heure, il a répondu en disant, si vous laissez en partie des terres qui ne sont pas annexées, vous les excluez précisément de l'appartenance à la terre d'Israël.
Oui, mais puisque tout le monde appelle frontières les frontières d'armistice, donc ce sera encore des frontières d'armistice, et puis c'est tout.
D'accord.
Puisqu'elles étaient occupées.
Rav Cherki. Je sais pas si
vous savez, on peut tout à fait régler le problème d'une autre manière. Quelqu'un a fait remarquer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il en sera des Israéliens habitant Judée-Samarie qui se trouvent dans un entre-deux? Il y a, indépendamment de ce qu'on appelle la juridiction territoriale, il y a également la juridiction des individus. Or, aujourd'hui, effectivement, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que les Juifs habitant les implantations de Judée-Samarie sont sous le coup de la juridiction militaire, étant donné que la région n'a pas été annexée, donc elle appartient juridiquement à l'armée, ce qui crée des arbitraires absolument intolérables, également avec des conséquences juridiques parfois très nocives. Et rien n'empêcherait effectivement, au lieu de faire ce qu'on appelle une annexion du territoire, on pourrait annexer les habitants, c'est-à-dire les détenteurs de citoyenneté israélienne, même habitant Judée-Samarie, serait jugé par la loi israélienne. Et donc, ça serait une autre forme d'annexion, tout à fait différente de ce qu'on appelle l'annexion territoriale aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un droit de la terre. Or, il est évident que vous pouvez très bien habiter un pays, que ce pays soit sous souveraineté du gouvernement, et qu'il y ait une partie importante de la population qui a une autre nationalité. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la plupart des Arabes de Judée-Samarie avait un passeport jordanien, certains l'ont encore. Le fait que la Jordanie se soit détachée de la Judée-Samarie pour des raisons politiques ne transforme pas ces gens en des non-jordaniens. Alors effectivement, on pourrait, au lieu de parler d'une annexion du terrain, on pourrait parler d'une annexion des personnes. Et cette annexion des personnes donc serait variée selon l'appartenance ou non à la société israélienne.
Je profite de cette occasion pour vous poser la question plus largement, puisque c'est une thématique qui a été reprise récemment, de dire pourquoi ne pas donner la nationalité israélienne aux juifs de la diaspora qui le demanderaient, justement reconnaissant ainsi la centralité d'Israël, et même s'ils conservent par ailleurs à la fois leur citoyenneté du pays où ils vivent et le fait qu'ils vivent dans un pays étranger. Est-ce que vous seriez éventuellement favorable à cette perspective ?
Écoutez, c'est envisageable, ça a été envisagé plusieurs fois dans l'histoire de l'État d'Israël. Je vous rappelle qu'une des dernières fois où cette proposition a été faite de manière très sérieuse, c'était par le député israélien d'origine française, Plato Sharon, qui avait parlé justement de l'élargissement de la Knesset, le doublement de la Knesset par des représentants des Juifs de la diaspora. Simplement, vous allez rentrer ici dans des questions pratiquement insoluble. Déjà, vous avez un problème à définir qui a le droit à la citoyenneté israélienne. Alors là, si vous passez à la diaspora avec les problèmes d'assimilation, ce que ça représente, ça va être extrêmement difficile. Surtout que vous avez des différences de sensibilité entre les différentes diasporas. Ce que représente le judaïsme américain est très différent de ce que représente le judaïsme français ou le judaïsme russe. Et dans quelle mesure on peut se définir comme juif, tout cela va créer des problèmes absolument pratiquement insolubles. Mais je voudrais entrer ici dans un problème, ici, disons, de fond. Si vous êtes israélien alors que vous habitez à Paris, vous faites votre service militaire ou pas ? Est-ce que vous êtes prêt donc à prendre en considération les enjeux de la société israélienne ? Est-ce que vous paierez vos impôts au gouvernement israélien à partir de ce moment-là ? Je pense que ce sont des questions très sérieuses. Être israélien n'est pas simplement avoir des droits, c'est également avoir des devoirs.
Alors, il y a beaucoup de questions sur le fil. Peut-être, puisque c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on vient de dire, avant de revenir aux questions précédentes, sur le Jean-Claude Bensoussan qui n'est pas d'accord pour que tous les Juifs doivent résider en Israël. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une obligation que tous les Juifs résident en Israël, en gros ? Enfin, est-ce que c'est souhaitable ?
Bon, on peut. Je ne sais pas si je vais convaincre mon interlocuteur. Évidemment, si on se base sur l'idée du kibbutz galouyot, du rassemblement des exilés, ça implique effectivement un retour de tout Israël sur sa terre. Et je pense que c'est une permanence, on peut dire, de l'histoire d'Israël, de se poser, d'être dans ce questionnement par rapport à la terre. Or, si nous parlons d'une alliance avec nos patriarches, cette alliance concerne déjà ici, Jean-Claude Bensoussan dit, vous ne m'avez pas compris. Alors, j'invite Claude Bensoussan à s'expliquer avant d'essayer de répondre à quelque chose qu'on n'a pas compris.
Alors, monsieur Bensoussan, est-ce que vous voulez prendre la parole et poser votre question directement ? J'ai me semblé l'avoir lu, pourtant. Est-ce que vous êtes là, monsieur Bensoussan ? Alors, je propose, en attendant que vous, éventuellement, vous réinterveniez, il y avait une autre question qui me paraissait intéressante.
Alors, attendez, j'ai le micro.
Alors, allez-y.
Dans la pensée juive, dans le judaïsme, l'une des obligations est de résider en Israël. Aujourd'hui, je réside en Israël, j'ai accompli ma mission de résider en Israël. Maintenant, j'ai d'autres missions, mais la première, c'est d'habiter en Israël. Et je pense qu'on ne peut pas donner la citoyenneté israélienne aux non-résidents parce qu'ils ne sont pas là et donc ils ne sont pas juifs. On ne peut pas demander un État juif et résider en dehors d'Israël.
Ils sont quand même juifs, il faut préciser.
Oui, ils sont juifs, mais ils n'ont pas accompli le commandement de résider en Israël.
D'accord. Un commentaire.
Voilà. Donc, maintenant, vous êtes beaucoup plus clair. Petite remarque quand même. Je suis fondamentalement d'accord avec vous. Simplement, je voudrais rappeler l'histoire qui est racontée dans la Torah à propos des tribus de Gad et Réhouven qui ont voulu résider en dehors de Canaan.
Oui.
La Transjordanie fait partie des Eretz Israël, ne fait pas partie de Canaan. Et quand Moshe n'est pas du tout d'accord avec eux, il dit que c'est cette répétition de la faute des explorateurs. Finalement, il y a une sorte de compromis qui est fait. Si vous faites votre service militaire en Canaan, alors vous appartenez à la société d'Israël, malgré tout. Donc, c'est pour ça que j'ai posé le problème justement du service militaire et des impôts. Est-ce que l'on est prêt à s'assumer totalement comme Israélien à partir du moment où on reçoit cette citoyenneté? Je pense que dans la mesure où elle serait accordée, qu'on le veuille ou pas, à des Juifs habitant en dehors d'Israël, alors effectivement, ce serait au moins cela comme condition à poser.
Alors, une question qui me paraissait intéressante par rapport à ce message dont vous parliez, qu'Israël doit déployer dans le monde, enfin ce rôle universel d'Israël par rapport aux nations, les nations qui attendraient de la part d'Israël quelque chose comme une parole d'origine prophétique. Et Élie Durand nous dit, est-ce que le meilleur message, des messages possibles au Goïm, ne serait pas un modèle de justice sociale basé sur les principes d'une économie shabbatique? Bon, je ne sais pas trop ce que c'est l'économie shabbatique, mais enfin, en tout cas, effectivement, que Israël puisse constituer ce modèle, notamment au niveau de la justice sociale, qui permettrait ce rayonnement universel, précisément, à partir d'un résultat concret qui aurait été obtenu par cette société israélienne.
Je voudrais vous faire part de certaines déceptions que j'ai par rapport à ce problème. Souvent, on parle d'économie juive. On parle de justice sociale juive. Alors, effectivement, les prophètes en parlent. Il y a également des éléments dans la halakha qui permettent d'établir cette idée-là. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'économiste sérieux qui serait capable de m'expliquer de manière absolument convaincante qu'est-ce que c'est que la justice sociale selon Israël. Alors, évidemment, nous avons quelques indications par-ci, par-là. Mais pour l'instant, j'en suis encore à une certaine déception par rapport à ça. Hélas.
C'est quand même surprenant parce qu'il y a beaucoup de textes, malgré tout, sur la manière dont le droit, dans le Talmud, notamment, la manière dont chacun doit avoir de quoi, les nécessités premières qu'il doit y avoir.
Absolument, mais vous pouvez dire vous référer aux règles de la Tzedaka, également aux règles du prêt à intérêt, aux règles de la Shemitah, du Jubilé, tout ça. On peut effectivement parler de grands principes de l'économie selon le judaïsme. Le problème est que dans la réalité de la halakha, on est capable de tout contourner. Par exemple, l'interdiction du ribit, l'interdiction du prêt à intérêt, est tout à fait contournable par des arguments totalement halakhiques. Et donc, si nous voulons parler d'un idéal économique et social du judaïsme, je pense que nous sommes encore assez loin d'une formulation convaincante. Je suis désolé de vous décevoir.
Est-ce qu'il faudrait se mettre à la tâche d'essayer de faire
un manuel? Une invitation très importante. Effectivement, je pense qu'il faudrait inviter, entre autres, les étudiants des yeshivot et les maîtres à s'occuper de sujets concernant l'organisation de la société et le droit en société, beaucoup plus que des questions de qu'est-ce qui est cachère ou n'est pas cachère. Je pense qu'il est très important de savoir qu'est-ce qu'on a dans son assiette, mais je pense qu'il est encore plus important de savoir qu'est-ce qu'on a dans son économie nationale. Alors, vous avez ici donc un livre très joli. Là, vous me présentez l'économie de la Bible.
Dans la Bible.
Auteur
de Richard Sidbon.
Oui, alors avec qui j'ai eu un entretien, effectivement, une fois téléphonique, dans lequel je lui ai dit que je n'étais pas convaincu par son livre. Donc, encore d'autres amis qui ont écrit d'autres livres, je ne voudrais pas tous les citer parce que je ne voudrais pas rentrer dans une polémique. Mais j'espère justement que des initiatives comme celle de Richard Sidbon, justement, seront suivies. Je pense que c'est un début. C'est
un début. Important. Je suis d'accord avec vous, c'est un bon début. C'est un bon début.
S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, manifestez-vous. Je reporte, pour l'instant, je continue de dire ce qui se passe sur le chat, notamment que le droit et le politique ne s'affrontent pas, ce serait bien. Alors, je ne sais pas trop ce que ça signifie vraiment, mais en tout cas, il y a la notion tout de même du droit hébraïque aussi qui revient. Est-ce qu'il n'y a pas justement, dans cette perspective-là, l'idée de remettre en service, entre guillemets, une forme de droit hébraïque modernisé, adapté?
Oui, absolument. D'ailleurs, il y a eu un colloque organisé par Shmuel Trigano l'année dernière, il y a deux ans, autour du problème du droit hébraïque, de la halakha dans l'État, etc. Je pense qu'il y a certains progrès importants qui ont été faits, entre autres parce qu'on appelle le Mishpat Haïvri, le droit hébraïque, par le professeur Elon et encore d'autres. Je pense que simplement, il y a un manque de maturité du corps rabbinique et des étudiants des yeshivot qui devraient être les porteurs de de ce message. Et on en est encore aujourd'hui à se demander si l'État, selon la halakha, ne serait pas une théocratie à l'iranienne. Alors qu'en fait, c'est extrêmement loin de ça et que ça serait justement quelque chose de très bénéfique si on comprend la halakha telle qu'il faut la comprendre. J'ai moi-même organisé une soirée autour du problème du droit hébraïque dans la société israélienne dans le centre que je dirige à Jérusalem. Il était assez intéressant de voir que des progrès ont été faits, mais que les choses ne sont pas encore formulées de manière qui puisse s'intégrer réellement dans la conscience politique et juridique des Israéliens. Or, cela est dommage, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une société dans laquelle nous avons énormément de travail à entreprendre.
Raph Cherki, il y a de la résistance encore en diaspora, parce que, par exemple, on nous demande qu'est-ce que vous pensez des associations de diaspora qui aident Israël, la Viso, Magen David Adom, etc. Est-ce qu'eux n'ont pas le droit à la nationalité israélienne? Et puis, on fait référence aussi à la décision de Jacob de séparer en deux camps ses troupes, sa famille. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un sens? Alors, c'est la question qui revient, hein, un sens et une justification dans le projet global à ce qu'il y ait des Juifs à l'extérieur, en diaspora, par rapport à Israël.
Vous savez, il s'est passé un phénomène assez important ces dernières années, ça fait déjà à peu près 10-15 ans, peut-être même 20 ans, qu'il y a un renversement des rapports Israël-diaspora. Alors que dans les premières années de l'État, c'était la diaspora qui soutenait Israël, aujourd'hui c'est Israël qui soutient la diaspora. Il faut être lucide à ce propos. Quand on crée des centres du judaïsme européen qui sont capables uniquement de vous donner un cours de boxe et également un ulpan de l'Organisation sioniste mondiale, on peut se demander qu'est-ce qu'il en est de la vivacité des centres juifs de diaspora, même au niveau, si vous voulez, au niveau démographique. Il faut être conscient du fait que tout aujourd'hui se concentre sur l'État d'Israël. Mais j'irai encore plus loin. J'ai entendu récemment une conférence d'un Américain qui était parmi les conseillers des différents présidents américains, qui a dit que de nos jours, nous sommes dans la situation où il n'y a plus de communauté juive dans le monde qui est persécutée en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence antisémite, qu'il n'y a pas d'attaque antisémite, mais aujourd'hui, le peuple juif a cessé d'être le peuple persécuté. Et cela est extrêmement significatif. Ça implique une nouvelle vision de notre rôle par rapport au monde, une certaine assurance que nous devons avoir. Et je sais que parfois ça choque certaines personnes qui ont une sorte de nostalgie justement de la persécution, on pourrait dire. Cette idée que nous vivons mieux quand nous étions dans le sentiment d'être dans la juste voie parce que c'est les autres qui sont méchants. Or aujourd'hui, ben non, c'est tout à fait différent. Israël a quelque chose à donner. Et c'est en tant que tel que nous devons agir. Alors, donc cette idée de perpétuation de centre culturel du peuple juif en dehors de sa terre, c'est la perpétuation d'une anomalie. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des communautés de la Gola. Mais il faut savoir où se trouve l'avenir. Or, une des choses les plus importantes de la tradition juive, c'est de savoir analyser l'époque dans laquelle nous vivons. Il ne faut pas se tromper sur le temps que nous vivons. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le temps du retour. Il y a ici quelques petites questions. Oui, d'accord.
Vivre avec et dans son temps. Est-ce que quelqu'un veut intervenir directement par l'intermédiaire de son micro et de sa caméra? Je laisse quelques secondes.
Est-ce que...
Oui, bonjour monsieur.
De Montréal.
Il y a donc, jour. Ça, notre ami.
Merci beaucoup. Est-ce que tu nous as pas du tout parlé des Noachides? Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer quelque part dans toute cette magnifique mosaïque?
Merveilleux. Je viens justement de finir la publication. J'ai réussi à publier récemment un Shulchan Aruch pour les Noachides en hébreu, en anglais, en russe et en espagnol. La version en français va bientôt être prête. Et recommandé d'ailleurs par les plus grandes autorités rabbiniques d'Israël. Je voudrais rappeler quelque chose. Manitou disait qu'il faudrait se dépêcher de venir en Israël avant qu'on ne sache plus faire la différence entre une synagogue et une église. En effet, les églises, dans leur vocation originelle, dans ce qu'elles auraient pu être, auraient été des messagers du judaïsme. Vous connaissez ce livre de Jean Vassal,
L'Église diaspora d'Israël.
Les églises diaspora d'Israël, point d'interrogation. Effectivement, ce projet est possible. Viendrait un jour où les nations seraient les émissaires d'Israël, seraient la véritable diaspora. Et je pense que ce processus aujourd'hui est engagé. J'ai moi-même participé beaucoup, je continue à participer beaucoup au mouvement Noachid, et effectivement, on voit que quelque chose maintenant avance, doucement mais sûrement. De plus en plus, il y a une conscience de cette option parmi les nations, et donc on peut dire que ce que m'a dit Manitou il y a déjà 25 ans, quand je lui ai demandé quelle serait la prochaine phase de la Géoula et qu'il m'a répondu la Torah pour les Goïm, eh bien on voit que ce projet commence à prendre forme. Et donc je remercie beaucoup Jogabé justement d'avoir rappelé l'existence de ce mouvement. Comme vous le savez certainement, à Montréal également, il y a plusieurs groupes de Noachid qui agissent, parfois l'un avec les autres et parfois les uns contre les autres, ce qui est merveilleux, ça veut dire qu'ils se sont inspirés du judaïsme.
Alors, Rav Cherki, quand même un petit mot, puisque vous nous annoncez la sortie de ce Shulchan Aruch pour les Noachid. D'abord, est-ce qu'il va pouvoir être distribué en France ou est-ce qu'il existe en français?
Oui, absolument. Il est en cours de traduction en français, c'est presque fini. Je parle également du rituel de prière qui, lui, existe déjà et qui est accessible. Vous pouvez sur Amazon, vous trouverez. Il s'appelle Berit Olam, le rituel de prière pour Noachid, avec également énormément d'instructions et de contenu. Il s'appelle Berit Olam, vous le trouvez sur Internet. Et le Shulchan Aruch s'appelle Berit Shalom, l'alliance de paix. Il sera très bientôt disponible. Vous pouvez déjà le trouver en anglais.
Et alors, en fait, finalement, quelle est la grande différence entre les deux Shulchan Aruch, si je puis dire,
entre celui des Juifs et celui des Noachid? C'est absolument énorme. Le Shulchan Aruch des Juifs est extrêmement pointilleux. Vous avez à peu près 1 million de halachot dont vous devez vous souvenir à tout moment. Tandis que si vous êtes Noachid, ben, c'est déjà beaucoup plus light. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau finalement au judaïsme traditionnaliste d'une certaine manière, et c'est déjà beaucoup plus décontracté. Mais il y a une insistance importante sur la dimension morale.
Et est-ce que vous avez le sentiment que il y a, comment dirais-je, quand on fait ce mouvement vers la dimension noachide de l'identité, on s'arrête là et on n'a pas envie d'aller plus loin?
Vous savez, j'ai demandé une fois à un dirigeant noachide à Rotterdam pourquoi est-ce qu'il ne se convertissait pas au judaïsme. Il m'a répondu de manière très pertinente, mais parce que je suis hollandais. Or, l'identité nationale et culturelle de tout homme est à respecter. Comme disait Lévinas, l'idée de peuple élu, c'est la base de la tolérance. Si vous êtes élu, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et que les autres ont une identité, et que cette identité est un enrichissement. Et non pas quelque chose qu'il faudrait impérialistiquement dominer, voyez-vous. Et donc, je pense qu'il y a sur la Terre énormément de non-juifs qui sont en recherche d'identité humaine, telle que la Torah l'enseigne, sans être juif. Je voudrais donner un exemple. Il y a actuellement en Ukraine un village entier de Noachides qui respectent le Shabbat, dont les femmes ont un foulard qui leur arrive jusqu'aux yeux et qui refusent de boire du lait des goyim. Ça arrive jusque-là. J'ai essayé de les convaincre que ce n'était pas nécessaire, mais non, ils insistent beaucoup là-dessus. Donc, et rien ne les amène à vouloir être juifs. Récemment, quand j'étais au Brésil, j'ai rencontré des Noachides qui ont fait 5 heures de route en voiture depuis Brasilia jusqu'à São Paulo pour me rencontrer. Ils avaient l'air tout à fait de juifs orthodoxes, mais ils n'avaient pas du tout l'intention de devenir des juifs.
Alors, Rav Cherki, une question peut-être plus personnelle, puisque vous avez parlé de cet échange avec Manitou il y a 25 ans, donc sur le fait de dire il faut que la Torah aille au Goïm, se diffuse. que vous avez, si je comprends bien un peu, c'était une mission qui vous donnait aussi indirectement à vous de faire ce travail que vous avez finalement fait, que vous continuez. Comment vous voyez votre rôle aujourd'hui dans ce mouvement général?
Ben, disons qu'il serait important que notre organisation soit une sorte de on pourrait dire une sorte de commission interministérielle. C'est-à-dire, vous savez que quand on veut que quelque chose ne marche pas en Israël, on fait dépendre ça d'un ministère. Mais si vous êtes en collaboration avec le gouvernement israélien, c'est là que ça marche. Et également en collaboration avec les différentes autorités rabbiniques, aussi bien en Israël qu'en Gola, il s'agirait de créer effectivement une sorte de cellule qui pourrait gérer les différentes initiatives qu'il y a au sein du noachisme. Ça ne vient exclure personne, ni les Lubavitch, ni d'autres options de ce genre, mais ça permettrait effectivement d'avoir une sorte d'institution officielle qui serait reconnue comme le lieu de rencontre de ces différentes initiatives. Parmi les projets que j'essaye de faire avancer, c'est l'idée d'un congrès mondial qui se tiendrait à Jérusalem avec les plus grandes autorités du peuple juif et également la présence des Noachides. Je pense qu'une institution est toujours quelque chose de respectable et d'important qui permettra par la suite également de se révolter contre l'institution, ce qui ne doit que faire que donner un surplus de vivification.
On retrouve bien l'avoir art de la dialectique, Rav Cherki. Est-ce que sur ce plan, vous avez le soutien unanime des religieux en Israël sur cette initiative?
Disons que le soutien unanime est quelque chose de tout à fait utopique, mais je suis quand même assez surpris de voir un certain enthousiasme dans les différents secteurs, si on dit, du monde religieux. Alors, vous aurez toujours des opposants, mais en général, il y a soit sympathie, soit indifférence, disons, curieuse, et parfois également engouement. Je voudrais quand même rappeler que j'ai reçu l'assentiment écrit des deux grands rabbins d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Lao, et de différentes autorités rabbiniques, vous pourrez voir ça dans le Shulchan Aruch, et également une lettre d'encouragement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Tout cela apparaît dans notre Shulchan Aruch et dans notre Sidour. Également, je parle ici de rabbins en Amérique, en Europe, et tant d'autres. Ah, ici, une petite question intéressante. Est-ce que le Rav Dilovitch fait également partie de ce travail dans ce sens? Est-ce que nous travaillons ensemble? Moi, j'invite tout le monde à participer. Le Rav Dilovitch a en général une option, disons, de travailler assez seul, mais il est toujours invité à participer à toutes les manifestations éventuelles de notre mouvement.
Voilà, le Rav Dilovitch, effectivement, bon, d'ailleurs, à ce sujet-là, on voit que la période du confinement, vous avez parlé d'un retour à l'intériorité, mais ça a été aussi l'occasion, pour beaucoup, de diffuser une parole de Torah. On n'a jamais eu autant de cours, on n'a jamais eu autant de possibilités.
Extrêmement surprenant, effectivement. D'abord, le fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous rencontrer si nombreux n'est pas une chose évidente et ce n'est pas évident pour tout le monde. Par exemple, vous avez ici des personnes qui sont diffusées, qui sont un peu disséminées sur le globe. Effectivement, c'est très chaleureux. Je pense que même les enseignants ont appris à se servir de cette technologie. Et donc, je pense que même après la crise sera réglée, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie justement de ce genre de diffusion. Et ça nous permettra certaines économies, même au niveau, disons, organisationnel, plutôt que de louer une salle, eh bien, se rencontrer sur son ordinateur parfois est plus pratique.
Voilà, plus pratique, mais quand même, la dimension de pouvoir.
Rien ne remplace le contact direct. Le présentiel, vous avez dit, c'est ça?
Le présentiel, voilà.
Est-ce que les Français adorent les néologismes.
Voilà. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question pour qu'on s'achemine vers la fin là?
Ce n'est pas une question, c'est juste une précision.
Oui.
Alors écoutez, il y a deux choses. D'abord, merci pour cette conférence et Shalom Rav Chouraki. C'est à propos de cette promesse divine que Dieu s'adresse à la nation d'Israël. Je vais vous donner tout ce que je vous ai promis. Mais je vous ai donné ça par tranche, parce que si je vous donne tout maintenant, donc vous allez avoir les bêtes sauvages qui vont envahir, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, on a une partie. Le texte est comme ça, n'est-ce pas? Voici les limites et de la de la terre que je vais vous donner, disons, je sais pas moi, à la fin y compris la journée du sage, je vais pas vous donner cela maintenant tout d'un coup, parce que sinon vous allez avoir des bêtes féroces qui vont s'installer, en fait, ça va être la pagaille. Et la deuxième chose qu'il y a, souvent on entend même chez les Israéliens, à propos Jordan is Palestine, ce qui est faux. En 1917, on nous a donné la déclaration Balfour, tout un ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant, alors que nous avons des problèmes les uns avec les autres, on va commencer à fixer des frontières, alors que, un, le Créateur a fixé, n'est-ce pas, quand il a parlé à ses prophètes, et deux, en 1917, il y a aussi des frontières qui ont été faites. La seule chose que nous avons, en tout cas pour nous, Nord-Africains, puisque personnellement, je n'ai pas été, disons, allemand ou suisse de religion mosaïque, disons, par ma mère. On a toujours été des juifs avec un passeport allemand ou avec un passeport suisse ou un passeport marocain, un passeport français ou espagnol ou portugais. Mais il y a des gens qui ne conçoivent pas cette chose-là. Et donc, il y a des gens qui pourront résider sur notre territoire, mais sans aller voter à la Knesset. C'est tout, c'est ça toute l'histoire. Ils veulent être sur notre territoire. Et j'allais dire bouffer du juif pour certains, sauf maintenant d'autres qui comprennent le danger à ce que ça devienne une Palestine parce qu'ils le vivent. Moi, j'ai quitté en 78 le Maroc définitivement. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette solution. Et à part ça, il y a la Mahane Echad Veikao, Vaya Mahane Anish Arlif l'État. Donc, c'est-à-dire que si Dieu préserve, il y a quelque chose qui se passe de catastrophique, eh ben, sur le tour, pour tour du bassin méditerranéen, il y aurait des communautés, quoi.
Merci monsieur, ça. Merci beaucoup. Monsieur Rafia, si vous voulez.
Oui, petite remarque simplement, je rappelle que Emmanuel Kant, dans un de ses discours, a parlé des juifs européens, il les a appelés les Palestiniens qui vivent parmi nous.
Tout est là.
Rafia, je vois aussi que dans le fil de la conversation, il y a Martine Dahan qui demande que vous reveniez, je pense que ça peut être intéressant. Pour terminer, pour éviter qu'il y ait une fin trop consensuelle finalement, de savoir cette notion d'incompréhension nécessaire dont vous avez parlé au départ, c'est très intéressant selon elle comme notion. Et est-ce que vous pouvez développer un petit peu finalement, est-ce que c'est simplement un pis-aller ou est-ce que c'est en soi quelque chose qui est nécessaire, c'est-à-dire que c'est pas une limite, on pourrait dire l'idéal ce serait de se comprendre et d'être différent, mais vous dites que c'est pas possible.
Je voudrais simplement amener une petite précision. Vous savez que quand on est confronté à quelqu'un, dans la confrontation se crée également une sorte de soudure. En hébreu, le mot milhama, qui veut dire la guerre, veut dire également la soudure, alhama. Et on peut dire que quand on entreprend un conflit avec un autre, alors, indépendamment de l'aversion qu'on peut avoir pour l'opinion adverse, finalement, quelque chose de l'opinion adverse s'introduit en nous. Et donc, de manière, on pourrait dire, inconsciente, finalement, les opinions se rapprochent de fait que ce qui a été exclu au départ était exclu avec raison et que c'est avec raison que finalement on se réconcilie après. Ce n'est pas un compromis, c'est la découverte de l'élément positif qui se cachait dans l'opinion adverse qui finalement se retrouve dans les combattants. Et donc, quand vous combattez avec quelqu'un, vous entrez en contact avec lui. Et donc, l'incompréhension fait partie également du projet de la rencontre. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire.
Voilà, et vous avez l'impression qu'entre laïcs et religieux aujourd'hui en Israël, c'est ce processus qui est en cours, finalement.
Oui, absolument.
Au bout du compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que nous en restons là pour ce soir?
Je pense qu'il est important de rester un peu sur sa soif.
Voilà, ouais. Je crois que Rav Cherki nous fait un signe que pour lui, de son point de vue.
Je pense que c'est extrêmement enrichissant de mon point de vue de vous rencontrer, d'avoir ces échanges avec vous. Je m'excuse dès le départ du fait que nous ne sommes pas à même de répondre aux attentes de tout le monde. Nous sommes nombreux ce soir et j'espère que nous pourrons entreprendre d'autres rencontres dans l'avenir et avec encore plus d'enrichissement. Merci à Antoine, merci à Olivier Cohen.
Que vous reviendrez aussi à Paris vous voir tout de même, enfin en France.
J'espère bien.
Quand le ciel sera ouvert, on dit.
À bientôt, Todaraba.
Voilà, alors merci beaucoup. Merci Rafferty, merci.
Shalom.
C'était très intéressant.
Merci beaucoup.
De pouvoir éclairer l'actualité de votre commentaire et de votre sagesse. Je rappelle que dimanche 13 septembre, donc en présentiel, nous avons rendez-vous à 18h à la Grande Synagogue de la Victoire, si toutefois les conditions sanitaires le permettent, le 13 septembre à 18h avec la conférence d'Olivier Cohen sur le sacrifice d'Isaac. Et puis il y aura évidemment d'autres événements qui vous seront annoncés par, comme d'habitude, par le site internet Manitou l'Hébreu. Merci encore vraiment à tous d'avoir participé, d'être présents aussi nombreux. On vous donne rendez-vous pour nos prochaines émissions, enfin nos prochaines rencontres à la fin de ce mois, donc sans doute. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante, nous dit Marlène. Je ne vous en connaissais pas jusque-là, mais je suis inscrite à l'instant sur votre chaîne YouTube. J'espère que vous aurez l'occasion de venir dans le nord d'Israël pour une autre rencontre. Voilà, c'était le dernier message. Merci à tous.
Merci au Rav.
Merci, madame.